écoutez Europe 1, il est 22h. Le journal Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Les députés britanniques rejettent à une écrasante majorité l'accord sur le Brexit conclu avec l'Europe par Theresa May. Une période de grande incertitude s'ouvre ce soir en Grande-Bretagne. On sera en direct de Londres avec Sébastien Krebs. C'est parti pour 2 mois. Emmanuel Macron a officiellement lancé aujourd'hui le grand débat national. Il a passé plusieurs heures en compagnie de 600 maires normands qui ont longuement détaillé les difficultés rencontrées par leurs administrés. Ça n'est d'ailleurs pas encore terminé. C'est un vrai marathon. Emmanuel Macron mouille la chemise ce soir et on sera en direct avec Jean-Rémy Baudeau, le chef de l'État qui tout à l'heure a appelé à un débat sans tabou, notamment sur la question de l'ISF. À la une également, un désherbant produit par Monsanto à base de glyphosate désormais interdit en France. Mehdine Mouche se mure dans le silence, jugé pour la tuerie du musée juif de Bruxelles. Le mondial de handball et un combat intense et très très serré qui se joue en ce moment entre la France et l'Allemagne, et c'est l'Allemagne qui domine pour l'instant 25-24. On est à quelques secondes de la fin de cette rencontre et on retrouvera Christophe Lamarre sur place à Berlin d'ici la fin de ce journal. Du côté de la météo, Elena Morna nous annonce de la pluie demain matin sur la Bretagne, puis sur les bords de la Manche et sur la Vendée. À l'avant, le ciel sera de plus en plus nuageux du Nord-Pas-de-Calais à l'Aquitaine ainsi que près de la Méditerranée. Un ciel voilé sur les autres régions de l'Est et le Midi-Pyrénées. Et des températures en baisse, prévision complète à la fin de ce journal. Et puis votre rendez-vous éco à 22h20, comme tous les soirs, avec Emmanuel Duteil qui reçoit aujourd'hui la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, Alexandra François Cuxac.
Europe 1.
Et une période de grande incertitude s'ouvre donc ce soir en Grande-Bretagne après le rejet massif de l'accord sur le Brexit. Sébastien Krebs, on vous retrouve en direct. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Sébastien, on savait qu'il y avait peu de chances pour que cet accord soit validé. Mais là, on peut dire que c'est un vrai camouflé ce soir pour Theresa May.
Ah oui, c'est une gifle terrible pour la première ministre. L'écart est colossal, 432 voix contre, seulement 202 pour. C'est simple, c'est la plus lourde défaite essuyée par un gouvernement britannique depuis les années 20. Theresa May vient d'assister à la rébellion de 118 députés de son propre camp conservateur qui ont voté contre son plan. Et cela a été célébré à l'extérieur du Parlement par des centaines de militants pro-européens qui espèrent que cela conduira à enterrer tout simplement le Brexit. On n'en est pas encore là, mais l'incertitude est totale. Le leader de l'opposition, Jeremy Corbyn, a tout de suite déposé contre le gouvernement une motion de censure. Elle sera soumise au vote du Parlement demain. Il est assez peu probable qu'elle aboutisse, mais si c'était le cas, cela conduirait à des élections anticipées. Sinon, Theresa May reste au pouvoir, mais avec quel scénario de sortie de crise? Elle a jusqu'à lundi pour proposer un plan B, une autre voie. On a du mal à la distinguer. Tout à l'heure, elle a pris la parole après l'annonce des résultats dans un brouhaha total. Elle maintient que l'objectif, c'est toujours de réaliser le Brexit comme prévu le 29 mars et qu'il n'est ni question de le repousser, ni de convoquer un nouveau référendum. Elle tentera probablement d'obtenir des concessions à Bruxelles, mais c'est peu probable qu'elle les obtienne, et cela pour éviter une sortie sèche sans accord.
Merci beaucoup Sébastien Krebs, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Dès l'annonce de ce résultat, le président du Conseil européen a tweeté pour appeler à une solution positive, tandis que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, met en garde les Britanniques. J'appelle le Royaume-Uni à clarifier ses intentions dès que possible. Le temps est presque écoulé, dit-il. Tandis que pour le vice-chancelier allemand, c'est un jour amer pour l'Europe. Et c'est donc en tout cas un vote historique qui vient d'avoir lieu de l'autre côté de la Manche. Il aura des répercussions. On aura l'occasion d'y revenir longuement dès demain dans la matinale d'Europe 1.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h04, c'est la suite de votre journal. Il a écouté, beaucoup écouté, pendant plusieurs heures, les doléances des maires venus porter la parole de leurs administrés, dire leurs difficultés, leurs ressentis, leurs espoirs. Emmanuel Macron à Bourg-Thérault, dans l'Eure, entouré de 600 élus normands avec lesquels il a dialogué à l'occasion du lancement officiel du grand débat national. Mobilité, pouvoir d'achat, accès aux services publics, déserts médicaux, mais aussi la question des 80 km/h. Le chef de l'État a d'ailleurs ouvert la voie à des aménagements sur cette limitation. Et puis, il a également évoqué l'ISF, sujet ultra sensible chez les Gilets jaunes, et assuré que cette question devait être mise sur la table du grand débat.
Dans des moments comme ça, où le pays, parfois, prend des airs un peu de folie, on veut toujours trouver un coupable. Mais il ne faut pas raconter des cracks. Hein. Ce n'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul Gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Si je le faisais demain, Les quelques-uns qui étaient en train de revenir, de créer de l'emploi, ils diraient, bah, celui-là, on a compris, il est comme les autres. Dès qu'il y a un coup de grisou, lui, il remballe ses idées, il est reparti. Bah, non. Après, je vous le dis très franchement, l'ISF doit faire partie de ce débat. Il ne doit pas y avoir de tabou. Moi, j'en parle comme ça avec vous parce que ce n'est pas un truc caché. Et l'ISF doit être évalué. Si des mesures ont été prises durant ces 20 mois qui n'ont pas d'effet, qui ne sont pas pertinentes ou qui sont contre-productives, elles seront corrigées. Moi, je crois que sur ces sujets, il faut être avant tout d'un grand pragmatisme et j'essaie de l'être.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1, vous êtes en direct avec nous, vous avez suivi et vous suivez encore, hein, puisque ça continue. Emmanuel Macron à Grand-Bourg-Téroult, le président qui a donc vraiment, vraiment pris le temps d'écouter et de répondre aux doléances des 600 élus normands qui l'entouraient.
Oui, et il continue de parler, bientôt 7 heures d'échange, dont 4 heures environ, rien que pour le président Macron. Il avait pourtant ouvert la séance en expliquant qu'il ne parlerait pas, qu'il serait là pour écouter. C'est évidemment une promesse un peu ratée. Alors oui, Emmanuel Macron a beaucoup écouté, les maires ont pu largement s'exprimer, mais ce premier grand débat a tourné effectivement à l'avantage du président. Tel un meeting, le chef de l'État a saisi l'occasion pour un exercice d'explication de sa politique. Il est encore en train de parler, il a fait tomber la veste. Il a pris point par point les questions des élus, ISF, collectivités locales, déserts médicaux. Les sujets étaient nombreux. On a vécu ici, il faut le dire, un moment démocratique assez particulier avec des maires qui, à la fois, portaient leurs propres revendications sur les dotations, sur les relations entre les maires, entre les mairies et l'État. Et on a aussi observé des élus qui ont porté les doléances de leurs administrés. Certains d'entre eux avaient ouvert des cahiers de doléances. D'ailleurs, je vous propose d'écouter deux maires normands pour saisir un peu la tonalité, celui de Yville et celui de Grainville, la teinturière, sur les radars et sur la question de l'assistanat. Écoutez.
Tous les jours, je dois passer devant une trentaine de radars. À un certain moment, ça devient un peu oppressant. Et on dit, bah, il y aurait peut-être moyen d'envoyer peut-être un message en nous permettant de pouvoir vivre de façon un petit peu plus libre.
Venez nous voir dans nos petites entreprises le matin très tôt. Ce sentiment qu'on a d'être nécessaire, utile au bien de nos petites communes. Allez, je vais être grossier, ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'on travaille... On a ce qu'il nous faut, mais ce qui nous dégoûte, c'est de travailler pour ceux qui n'ont pas envie de travailler.
Voilà, alors, pour tout vous dire, la salle est désormais debout. Le président Macron a annoncé la fin de la séance. Il est donc plus de 22 heures. Le président Macron qui est aussi revenu sur certains thèmes chers aux Gilets jaunes, sur le référendum d'initiative populaire. Par exemple, il a fait part d'un avis plutôt négatif, mettant en avant le risque de tuer la démocratie représentative. Il a pris l'exemple du Brexit en expliquant, je cite, « Le peuple a dit non et le pouvoir politique n'avait pas de solution ».
Jean-Rémy Baudot en direct. Jean-Rémy qui a suivi donc ce marathon d'Emmanuel Macron à Bourg-Téroult dans l'heure. Merci à vous Jean-Rémy. En tout cas, si le président a longuement discuté avec les élus. Les gilets jaunes, eux, ont été tenus à l'écart. Tous les accès à Bourg-Téroult ont été fermés tôt ce matin. Mais Jean-Gabriel Bourgeois, vous êtes également sur place pour Europe 1. Une dizaine d'entre eux ont quand même été reçus par l'une des animatrices de ce grand débat, la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon.
Oui, ce sont deux délégations de Gilets jaunes de Normandie qui ont été reçues l'une après l'autre en début d'après-midi, juste avant que ne commence le grand débat. C'est un premier pas, reconnaissent les représentants, mais certains en sont ressortis déçus, comme Laurent, venu du rond-point de la Lune à Brionne, tout près d'ici.
C'est toujours « on verra, on va essayer d'en parler ». Non, nous ce qu'on veut c'est du maintenant, c'est du concret. C'est pas demain, après-demain. Voilà, le pouvoir d'achat on le veut aujourd'hui, on ne veut pas... Dans 6 mois, on sait que ça allait être, ouais, c'est du blabla, ça allait être, on le sait.
Et alors justement demain, après-demain
On continuera la manifestation. On continuera, on va pas lâcher.
Quelques minutes plus tard, les gendarmes font évacuer le parvis de la mairie avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Moment de tension face à la petite centaine de manifestants qui avaient réussi à rejoindre le centre-ville. Et déception pour Muriel, une assistante maternelle qui habite à Grand-Bourg-Téroult. Elle aurait bien aimé apercevoir le président.
Ils nous ont repoussés, les gendarmes, ils ont fait leur travail. Et puis ils nous ont repoussés pour que le cortège puisse passer. Et puis voilà, bon, j'aurais bien aimé le voir, mais bon.
Vous auriez aimé le voir pour lui dire un mot ?
Lui dire qu'il écoute le peuple. Déjà, et puis ce que les gens ils ont à dire, et puis qu'il en fasse pas qu'à sa tête.
Déçus aussi les quelques centaines de gilets jaunes massés aux abords de la ville et qui n'ont pas pu entrer, bloqués par les forces de l'ordre.
Jean-Gabriel Bourgeois aux côtés des gilets jaunes à Bourg-Téroult dans l'heure. Ce matin, le chef de l'État avait fait un crochet surprise par la petite commune de Gagny. C'est également dans l'heure où il s'est invité à la table du conseil municipal et où il a notamment prononcé cette phrase très critiquée par l'opposition. Les gens en situation de difficulté, on va davantage les responsabiliser car il y en a qui font bien et il y en a qui déconnent. Fin de citation. Eux demandent à ce que l'égalité d'accès à la justice dans les territoires soit intégrée à ce grand débat. Avocats, magistrats, greffiers qui ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Paris. Ils étaient plusieurs milliers et dénoncent toujours la réforme de la justice qui fait son retour à l'Assemblée cette semaine.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h11. Merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal avec le troisième jour du procès de Mehdi Nemouche, jugé pour la tuerie au musée juif de Bruxelles en 2014, qui avait fait 4 victimes. Pierre de Cossette, vous avez suivi cette journée d'audience. On espérait entendre Nemouche sur le fond de l'affaire, mais il a été très clair. Il refuse de s'expliquer. En revanche, si lui refuse de parler, ses avocats, eux, ont mis en avant aujourd'hui des arguments teintés de complotisme.
Oui, avec d'abord des observations qui posent question. L'absence de traces, que ce soit ADN ou empreintes digitales de Mehdi Nemouche, sur la porte du musée juif. Et puis, on s'éloigne. L'accusation de photos truquées. La police aurait retouché un cliché du tueur pour enlever ses lunettes de soleil et le recoller le visage de Mehdi Nemouche grâce à Photoshop. Ensuite, cet appartement loué avec de faux papiers pendant 2 mois à 20 mètres seulement du musée juif par des personnes qui auraient volontairement cherché à se faire passer pour des islamistes. Les avocats de Mehdi Nemouche lance cette idée. Les deux premières victimes sont un couple de quinquagénaires israéliens qui auraient été comptables pour le compte du Mossad, des services secrets israéliens. Les avocats insinuent alors l'idée d'une exécution ciblée. Mehdi Nemouche se serait retrouvé après coup en possession des armes. On ne comprend pas tout. Des avocats qui entretiennent le suspense et promettent que le procès apportera des réponses.
Pierre de Cossette qui suit pour Europe 1 ce procès à Bruxelles. Info Europe 1 d'Alain Racot. 1,3 tonne de cocaïne a été saisie dans un entrepôt de Gennevilliers en banlieue parisienne par l'Office central des stupéfiants. La drogue est arrivée par bateau. 3 personnes ont été arrêtées. La justice française annule l'autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360. C'est un produit désherbant contenant du glyphosate produit par Monsanto. Le tribunal administratif de Lyon invoque le principe de précaution. Direction Berlin maintenant où se tiennent les championnats du monde de handball. Vous savez que ce soir, les Français affrontaient l'Allemagne. On a assisté à une rencontre extrêmement serrée face à face. Deux des meilleures nations mondiales, deux prétendants au titre. Et donc, un match tellement serré qu'on n'a pas réussi à départager les deux équipes, Christophe Lamarre.
Et le match nul entre la France et l'Allemagne. Un match qui a tenu toutes ses promesses. On avait dit qu'il y aurait beaucoup d'ambiance. Il y en a eu. On a dit qu'il y aurait du suspense. Il y en a eu. L'Allemagne qui a compté jusqu'à 2 buts d'avance à moins de 5 minutes de la fin de ce match. Et les Français qui parlent intermédiaire de Timothée Nguessan ont égalisé à la toute dernière seconde, 25 partout. La France qui conserve la tête de ce groupe A, mais qui quand même va voir la route des demi-finales s'encombrer quelque peu. Il est probable qu'elle retrouvera le tour principal en fin de semaine, mais en revanche, la route des demi-finales se complique quelque peu pour les Français, comme pour les Allemands d'ailleurs. 25 partout, score final entre la France et l'Allemagne, ici à Berlin.
Merci beaucoup Christophe Lamarre. En foot, match de Ligue 1 ce soir, Bordeaux s'est imposé à Angers 2-1. En Ligue 2, le Havre a battu Valenciennes 4-3. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous Elena Morna, avec du changement demain, mais est-ce qu'on peut quand même s'attendre à des éclaircies ?
Si j'avais une baguette magique, Isabelle, la réponse serait oui. Mais non, j'ai plutôt une perturbation qui va aborder la Bretagne demain matin. Avec un vent de sud-ouest, la pluie gagnera la Vendée et les bords de Manche l'après-midi. À l'avant, un ciel de plus en plus nuageux. Ce sera plus lumineux, un ciel voilé des Pyrénées à la moitié est, avec un bémol sur le pourtour méditerranéen où le Mistral s'essouffle. Et il est relayé par un vent marin porteur de nuages entre le Languedoc-Roussillon et les Alpes-Maritimes ainsi que sur la Corse. Sur la Savoie, prudence, le risque d'avalanche est maintenu. Alors attendez-vous à avoir plus froid demain matin entre le sud-ouest, le centre et la Franche-Comté avec moins 1 à moins 6 degrés. 1 degré à Bordeaux et Nîmes, 4 à Quiberon et Paris ainsi qu'à Toulon, 7 à Dunkerque et puis l'après-midi comptez sur 5 degrés à Langres, 7 à Lille, à Nancy et Blois, 8 à Rouen, Paris et Annecy, 10 à La Rochelle, 11 à Quimper, Lyon et Cahors, 12 à Biarritz et Perpignan, 13 pour Clermont-Ferrand, 15 à Marseille, 16 à Bastia. La baisse des températures va se confirmer ces prochains jours. Notre week-end devrait être bien hivernal avec de la neige en plaine au sud de la Loire.
La météo signée, Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Alexandra François Cuxac, la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
et à 22h17 sur Europe 1. On s'intéresse à la bourse comme tous les soirs avec vous, Didier Hamaud, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui est reparti à la hausse, emmené par les valeurs de technologie.
Forte hausse du Nasdaq en particulier qui gagne 1,7%. Donc oui, les valeurs de technologie flambent ce soir. 7024 points sur le Nasdaq. Le Dow Jones, c'est plus modeste, plus 0,65% quand même. 24 065 points. Les annonces du rejet de l'accord sur le Brexit à Londres n'ont eu aucun effet à Wall Street ce soir. Les investisseurs retiennent en fait surtout positivement la perspective d'un plan de relance en Chine où les indicateurs économiques battent de l'aile. Et donc ça donne un rebond très net sur les valeurs, les grosses valeurs de technologie comme Google, plus de 3% de repris. Tesla, plus 3% aussi. Microsoft, plus 3%. Amazon, plus 3,5%. Apple regagne 2% à 153$. Le pétrole aussi en profite indirectement, plus 2,6%. Le baril est à 52$ ce soir. Ça donne Exxon en hausse de 0,1% à 71,67$. Sur les devises, il y a quand même une réaction à cette annonce sur le Brexit. C'est la livre sterling qui est remontée à 1,28 face au dollar. Les investisseurs pariant sur le report de la date butoir de la fin mars pour le Brexit. Évidemment, ça va beaucoup jaser sur les marchés dans les prochaines heures, dans les prochains jours.
On imagine, oui.
L'euro est beaucoup plus stable, lui, à 1,14. Il ne bouge pas face au dollar.
La Bourse de Paris, elle, a mis fin à une série de 3 séances de baisse.
Plus 0,49%, ça remonte un petit peu. 4786 points. Plusieurs sociétés ont communiqué des chiffres encourageants sur leur activité à la fin 2018, à l'image d'Interparfums, qui grimpe de 8% après avoir revu en hausse ses objectifs de chiffre d'affaires 2018, en tablant sur un chiffre d'affaires de plus de 450 millions d'euros contre 430 millions d'euros auparavant. Ça remonte aussi un petit peu sur Capgemini, plus 3,7% qui avait beaucoup baissé. L'aéronautique aussi se reprend, plus 2,6% Airbus, plus 2% Safran. Et puis Peugeot regagne 1,3% après l'annonce de vente mondiale en hausse de 6,7% en 2018.
Et l'exception du jour, c'est le titre Air France KLM qui a chuté de plus de 5%.
Moins 5,2%, oui. 8,77€ à la clôture. C'est la Deutsche Bank qui a dégradé le dossier Air France KLM en conseillant désormais de vendre le titre et en ne visant plus qu'un cours de 8€ sur Air France KLM avec des perspectives 2019 plus prudentes. Ailleurs, sur les autres places financières, ça remonte partout. Le DAX à Francfort, plus 0,3%. Bruxelles, plus 0,8%. Madrid, plus 0,36%. On a Londres qui gagne 0,6% et on rappelle le CAC 40 en hausse de 0,49%, 4786 points.
Merci beaucoup Didier Hamaud de boursier.com et à demain. Et à 22h20, il est temps de retrouver l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers.
Bonsoir Alexandra François-Cuxac.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de la Fédération des promoteurs immobiliers. Si on a eu envie de vous inviter, c'est qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat, d'immobilier dans ce grand débat qui débute aujourd'hui. On en a beaucoup parlé, y compris dans le journal d'Isabelle Millet. Emmanuel Macron était aujourd'hui dans l'heure. L'immobilier est au cœur du mal-être avec cette question finalement. Comment réussir à produire plus et surtout à créer des logements moins chers? D'une certaine manière, le monde de l'immobilier est en partie responsable de la crise d'aujourd'hui?
Comment on en est arrivé là? Je pense que c'est important effectivement de retracer un peu l'histoire rapidement. Depuis 15 ans, on a construit nos métropoles. Nos métropoles, elles ont permis de construire beaucoup de logements, beaucoup de services, beaucoup de commerces. Elles ont permis de loger énormément de Français. Et puis progressivement, elles sont devenues de plus en plus importantes. Elles ont débordé, elles ont eu leur banlieue et puis elles ont eu leur ville-région. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a oublié le cœur de ce pourquoi elles avaient été faites. C'est l'accessibilité, le logement abordable, la mutualisation au service du prix. Et les villes métropoles sont devenues de plus en plus chères, de plus en plus inaccessibles. Et elles ont poussé, elles ont créé de la pauvreté, bien sûr, mais elles ont aussi poussé ce qu'on a appelé progressivement les classes moyennes à s'éloigner de plus en plus. Avec une promesse, qui est une promesse pas très facile à assumer, c'est qu'on a mis les gens sur la route en leur disant « ça ne vous coûtera pas plus cher ». Et puis hop, des augmentations du prix du gasoil. Et là, les gens réalisent que finalement, habiter loin, c'est habiter cher parce que la métropole, c'est la concentration par définition de l'économique, du culturel, du service. Et le logement s'en est de plus en plus éloigné.
Quand vous dites « on a oublié », c'est qui le « on » ?
Les politiques immobilières ?
Les politiques immobilières ?
Les politiques immobilières se sont concentrées sur la quantité. On l'a logé les gens, beaucoup, on l'a construit en masse.
Mais c'est la faute des politiques, c'est la faute du monde de l'immobilier que vous représentez. C'est qui ce « on » C'est tout le monde ?
Moi, je pense que c'est le pouvoir public. Les pouvoirs publics, alors ça a été pendant longtemps l'État, hein, la métropolisation a été conduite par l'État, par les gouvernements successifs, et puis ensuite, on a eu la loi de décentralisation, 81, et donc là, c'est devenu l'apanage des élus locaux, des maires, des collectivités locales. Et eux ont eu en main de devoir loger leurs concitoyens dans des conditions acceptables, et, mais je, j'allais dire, le mal était un peu fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis le prix au cœur des politiques immobilières. Pourquoi ? On a eu beaucoup d'autres priorités, la quantité, mais on a eu aussi l'innovation à intégrer, et puis on a eu aussi le développement durable, il fallait protéger la planète, et puis on a eu aussi un certain nombre de services qui se sont délocalisés dans les villes, et donc tout ça a fait que le prix du logement n'était plus au cœur des préoccupations.
On va revenir dans un instant sur le prix, comment on produit plus et moins cher. Juste d'un mot, est-ce que vous allez inciter les membres de la Fédération des promoteurs immobiliers à aller participer aux débats là, qui sont lancés. Vous-même, vous allez participer à certains débats pour alimenter la discussion, pour trouver des solutions justement pour tout ça ?
Je crois qu'on a un rôle de citoyen. On a été appelé par le gouvernement en tant que citoyen. Ensuite, la Fédération des promoteurs, elle regroupe la voix des professionnels. Donc, elle réunit déjà sur l'ensemble du territoire la voix des opérateurs immobiliers. Le rôle de la Fédération est de les relier directement auprès des cabinets, notamment le ministère de la Cohésion des territoires, en ce qui nous concerne. Mais en tant que citoyen, chacun est évidemment appelé à faire remonter.
Vous allez le faire à titre personnel ?
Oui, moi je le ferai à titre personnel, même si je peux être taxé de professionnalisme et puis peut-être de recul sur ces questions. Mais je crois que les élus locaux, les maires, qui sont vraiment en première ligne sur cette question de mobilisation citoyenne autour des grandes questions qui intéressent les Français, les maires devront dire aux professionnels oui, intervenez ou n'intervenez pas.
Alors là, on va reprendre votre casquette de présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. Depuis le début de cette interview, on dit il aurait fallu produire plus et moins cher. C'est facile à dire, mais on fait comment ?
Moi, je crois que la métropole, pour redevenir attractive et remplir son rôle, produire du logement abordable pour tous, elle doit sortir de plusieurs choses. D'abord, elle doit comprendre sa responsabilité et construire plus. Construire plus, c'est densifier. Vous savez, aujourd'hui, en France, il y a encore des très grandes villes qui autorisent des bâtiments à R+2 ou 3 étages maximum. Ça n'est pas acceptable.
C'est-à-dire que vous voulez dire, il faut monter plus haut.
Mais évidemment, il faut monter plus haut parce que nous avons besoin de produire du logement moins cher et plus on monte, plus on a la possibilité de construire du logement moins cher.
Parce qu'on fait des économies d'échelle.
Mais bien sûr, il y a des économies d'échelle. Mais il y a aussi une volonté politique. Il faut avoir la volonté politique de mettre le prix au cœur du dispositif.
Et ça, par exemple, c'est avoir les terrains moins chers dans les grandes métropoles.
Ça veut dire, par exemple, arrêter de vendre des terrains aux enchères ou aux plus offrants. Les collectivités le font encore. Ça veut dire peut-être instaurer aussi des mécanismes qui permettent de plafonner les prix du foncier de temps en temps. Je crois que la politique, au sens noble du terme, doit introduire une notion de coût accessible à l'ensemble des Français.
Les professionnels de l'immobilier disaient aussi que ça coûte cher de produire parce qu'il y a beaucoup de normes d'un côté. Alors là, le gouvernement est revenu et ça avait créé énormément la polémique sur certaines normes pour les handicapés, par exemple, mais également parce qu'il y avait beaucoup de recours quand on veut construire un immeuble dans telle ou telle zone. Souvent, les riverains, machin, font des dizaines de recours. Au moins sur les recours et un tout petit peu sur les normes, il y a eu, selon le monde de l'immobilier, quelques avancées. Est-ce que ça va assez loin ?
Ça va bien au-delà de ça. Je crois que ça manque de pédagogie. Je crois que nos élus locaux doivent faire la pédagogie. Pourquoi nous devons construire en France ? Pourquoi nous devons construire pour toutes les couches de la population, pour toutes les bourses, et donc pourquoi il faut densifier, pourquoi il faut arrêter de s'opposer par principe à l'arrivée de nouveaux habitants dans son quartier. C'est une responsabilité de chacun, ça n'est pas uniquement la responsabilité du maire qui finalement est un peu impuissant face à des gens qui viennent se rebeller contre un permis, quand bien même ce permis est parfaitement légal. Je crois que le sujet de fond, il est culturel, il est on accepte l'autre, on comprend. Il faut comprendre que produire plus, c'est au service des prix. Et c'est ça qu'il faut que ça. C'est la pédagogie de cela qu'il faut faire de manière à désengorger tous ces recours et arrêter de monter les gens les uns contre les autres. Et puis il y a un deuxième point de vue binaire qu'il faut arrêter, c'est qu'on a l'impression que dans ce pays, pour produire du logement pas cher, il faut obligatoirement produire du logement social. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans les autres pays européens. La sphère privée, les acteurs de la production privée de logements dans les autres pays est largement plus mise à contribution qu'en France.
Quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, il avait dit « je vais faire un très gros plan sur le logement intermédiaire. Il a semble-t-il oublié que ça existait.
Alors, il y a quelques avancées qui ont été faites. Parmi elles, la création, si vous voulez, de grandes maisons avec des foncières, qu'on appelle des foncières d'habitat, qui sont là pour acheter des immeubles entiers aux promoteurs pour loger des populations qui en ont besoin. Mais attention, ça reste de l'immobilier locatif. Moi, je ne parle pas de locatif, je parle aussi d'accession à la propriété. Donc, mettre à contribution les producteurs de logements privés pour produire du logement abordable, ça me paraît être totalement prioritaire. L'accession à la propriété doit revenir au cœur des politiques immobilières dans les PLU, dans les programmes de nos élus, bientôt les élections municipales en mars 2020. Ce sujet-là doit être au cœur de la problématique.
Et ben on verra s'ils vont vous entendre. Un grand merci d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Alexandra François Cuxac, à la tête de la Fédération des promoteurs immobiliers, était notre invitée. On se retrouve demain, 22h20.
À demain, Emmanuel Duteil, comme tous les soirs. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les infos que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Les Françaises font de moins en moins de bébés. C'est l'INSEE qui le dit. Baisse de la natalité, les risques pour l'économie, titre le journal Les Échos. Le nombre de naissances est en recul pour la quatrième année consécutive. 12 000 bébés en moins en 2018. L'impact sera négatif à long terme sur la croissance, mais aussi sur le financement des retraites. Le journal L'Opinion titre quant à lui sur le débat piégeux des quotas. Évoqué dans la lettre adressée aux Français par Emmanuel Macron, le président a ouvert la piste d'objectifs annuels d'immigration, tout en sachant, écrit l'Opinion, que ces quotas sont inefficaces à juguler les flux. Mais l'exécutif pourra dire que le sujet n'a pas été esquivé. Alors qu'aujourd'hui, justement, le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres annuels de l'immigration, 255 550 primo-arrivants en 2018 et 122 743 demandes d'asile, soit une hausse de 22% par rapport à l'an dernier. L'assurance vie pénalisée par les taux bas, c'est ce que nous dit le journal Le Figaro dans ses pages économie demain matin. À 1,6% pour 2018, le rendement moyen des contrats ne compense pas l'inflation et c'est une première. Et puis précarité, le salaire de l'Uber, c'est le titre de Libération demain matin. En reconnaissant le lien de subordination qui unit des auto-entrepreneurs à leur plateforme, la justice a ouvert la voie à la salarisation des travailleurs ubérisés. Passer l'euphorie des débuts, les plateformes de services sur Internet comme Uber ou Deliveroo sont en train de se faire rattraper par la patrouille, écrit Christophe Israël. Mauvais augure pour elle que cet alignement des planètes qui voit les juridictions de plusieurs pays européens donner raison aux mécontents. Ils se plaignent de ne pas avoir, en retour de leur travail, droit aux plus élémentaires des protections, assurance maladie, indemnité de licenciement, chômage, que la société accorde pourtant au commun des salariés, tout précaire à temps partiel ou à durée déterminée qu'il soit. Et le journaliste de s'interroger, l'Uber, économie, un miroir aux alouettes, point d'interrogation. En l'absence d'un droit adapté, c'est bien possible et c'est ce vide juridique que plusieurs décisions de justice rendues ces dernières semaines s'appliquent à combler. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des Unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin.